Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Jean-Baptiste Jacquat, chef du service sciences et médecine du Monde. J'aimerais qu'on parle de comment un journaliste vit au quotidien la question de la vérité, puisque vous êtes amené à exprimer des choses très rapidement, souvent sur 24 heures, dire des choses qui, en principe, sont vraies. Quels sont les outils que vous avez pour croiser vos sources, être sûr qu'on ne dit pas trop de bêtises? Et quelle est la relativité qui peut exister dans ce concept de vérité d'un journal à l'autre ou d'un pays à l'autre? Alors commençons par le début. Comment vous faites en pratique?
Les outils que nous avons à notre disposition, bien sûr, ce sont d'abord les sources. Les sources pour un journal scientifique, de vulgarisation scientifique comme Le Monde, ce sont les publications scientifiques, bien sûr.
Alors je vous coupe tout de suite, les publications scientifiques publiées, validées.
Oui.
Souvent, on voit dans les journaux des publications scientifiques qui ne sont qu'à l'état de pré-publication.
Et alors ça, c'est quelque chose qui a évolué, enfin, ce qui prouve que enfin, les réponses aux questions ne sont pas noires ou blanches. Pour revenir à une période récente qui était très médecine, la pandémie de Covid, où il y avait un besoin de compréhension et d'information du public extrêmement rapide, bien évidemment, on ne pouvait pas attendre la publication d'articles revus par les pairs. Et donc, la presse, y compris nous, nous nous sommes appuyés sur des préprints.
Est-ce qu'il y a eu des erreurs?
Bien sûr qu'il y a eu des erreurs. On ne pouvait pas attendre, ce qui était notre règle intangible auparavant, que l'article soit revu par les pairs et publié dans une revue officielle. Parce qu'il y avait un besoin d'information. Que faire? Il fallait prendre ces articles pour ce qu'ils étaient, un travail en cours d'un scientifique dont la validation n'était pas encore très forte, mais on estimait avoir le devoir d'informer nos lecteurs sur l'avancée des connaissances sur cette pandémie qui terrorisait tout le monde, dont on ne comprenait pas grand-chose.
Est-ce que vous pensez que le public général était au courant de ça, que les textes en question n'étaient pas encore complètement validés?
On le spécifiait dans les articles. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le public a peut-être découvert à cette occasion-là qu'auparavant, nous ne traitions que de publications revues par les pairs, puisqu'on ne le précisait pas auparavant. À la fin de la pandémie, on s'est dit, reprenons nos habitudes, reprenons notre règle intangible et arrêtons-nous aux seuls articles revus par les pairs.
Je crois que je devine la suite. Vos concurrents, ils n'ont pas fait la même chose.
Nos concurrents n'ont pas tous fait la même chose. Et nous-mêmes, on s'est rendu compte que cette règle était parfois trop rigide. Trop rigide pour deux raisons. La première, c'est qu'une publication revue par les pairs, parfois, se trouve rétractée quelques années plus tard.
Parfois.
Parfois, ça arrive. Donc, ce n'est pas, entre guillemets, la certitude absolue du sérieux du travail, des conclusions, des résultats, des calculs qui sont produits par ce travail. En revanche, ce qui est important, plutôt que de prendre pour argent comptant ce qu'il y a dans ces revues, ce que l'on faisait d'ailleurs systématiquement ce travail, c'est d'appeler nous-mêmes les pairs, d'appeler nous-mêmes les chercheurs pour les faire réagir sur le travail d'une équipe autre, travail auquel ils n'ont pas participé, pour avoir leur regard, parce que nous ne sommes pas des biologistes, des astrophysiciens, nous sommes des vulgarisateurs, et donc on fait appel aux sachants, entre guillemets, qui, eux, nous éclairent sur le point saillant de l'étude, qui n'est pas forcément le point qui est repris dans le communiqué de presse que parfois l'université fait pour accompagner une publication, pour dire c'est un point de rupture, c'est une breaking news absolument révolutionnaire. On se rend compte que parfois, c'est une avancée beaucoup plus modeste et on n'est pas toujours à même de jauger.
Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, vous faites une pré-évaluation par vous-même.
Oui, c'est pour ça que le concept de vérité en journalisme est très compliqué à appréhender. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de faire ça de façon honnête et rigoureuse. Est-ce que pour autant c'est un gage de vérité? Je ne sais pas.
Généralisons un peu, comment est-ce qu'on peut comparer la vérité d'un journal comme Le Monde et un journal comme le New York Times en matière de science? Est-ce que vous communiquez la même vérité des deux côtés? Prenons l'exemple de Trump actuellement, la façon dont il traite la science est ressentie de manière très différente ici et là-bas. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre un point de vue qu'on estime véritable?
Alors ça, c'est pas de la science qu'on transmet, c'est de l'information, là.
Oui, mais ça, vous le faites aussi dans votre journal.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et là, depuis le mois de janvier, nous avons fait de très nombreux articles pour expliquer ce que l'administration Trump inflige à la communauté scientifique et universitaire américaine. Très honnêtement, je ne cherche pas à me comparer au New York Times, qui d'une part, en l'occurrence, est un journal américain qui parle de son pays, et nous, on parle des États-Unis comme d'un pays étranger, qui intéresse moins nos lecteurs que si c'était ce qui se passait en France. Donc on a une couverture plus modeste, entre guillemets. En revanche, en termes d'analyse, est-ce que ce qu'on écrit dans Le Monde sur ce qui se passe aux États-Unis est une interprétation différente? Donc là, j'ai employé un gros mot, interprétation. Est une interprétation différente de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qu'en retient le New York Times? Je ne sais pas si on a des analyses différentes. C'est là où le concept de vérité en journalisme est compliqué, c'est-à-dire que ça repose sur des faits, donc en l'occurrence des décrets présidentiels américains, qui parfois sont contestés devant les tribunaux américains. On ne peut pas non plus prendre pour argent comptant tous ces décrets, puisqu'une partie vont être annulés par la justice. Appuyer sur ces décrets et les prendre et considérer comme une décision définitive, est-ce que c'est raisonnable? Ou est-ce qu'il faut plutôt les prendre comme un risque qui risque d'advenir? Je ne sais pas qui a raison, je ne sais pas qui a tort. C'est une affaire d'appréciation qu'on essaye de restituer ce qui se passe aux États-Unis de façon honnête. Alors, notre source, en l'occurrence, c'est qu'on appelle des chercheurs, des universitaires américains qui nous racontent ce qui se passe avec un phénomène qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. C'est qu'un nombre considérable de personnes refusent de parler en leur nom. Il y a une terreur actuellement aux États-Unis, un climat de terreur qui fait que des gens qui avaient la parole libre et qui ont des situations solides, ce ne sont pas des post-docs qui ne sont pas sûrs de leur poste et qui ont peur de le perdre s'ils ont une parole de travers. Ce sont des professeurs d'université, des directeurs de laboratoires de grands centres de recherche qui préfèrent ne pas être cités lorsqu'ils s'expriment sur la situation actuelle aux États-Unis.
Et je confirme parce que je vis ça aussi, oui. Donc ça veut dire en fait que, d'une certaine manière, vous avez plus de vérité que les journaux américains, peut-être?
Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Mais ça dépend des journaux américains. Là aussi, dans la communauté des médias, entre guillemets, il y a des analyses, des conclusions très, très, très variées. Le verre à moitié plein, à moitié vide, voilà, c'est toujours une... Ça, c'est une vérité.
Alors, dans le même genre de questions... Quelle est la limite entre l'article scientifique qu'on trouve dans Le Monde et l'article, disons, de militantisme? Prenons par exemple, vous en avez beaucoup, et c'est normal, et je vous en félicite, vous avez beaucoup d'articles de nature écologique, par exemple. Là, c'est parfois un peu délicat de faire la part des choses dans des questions qui ont une connotation aussi politique, et donc vous devez faire des choix. Alors comment est-ce qu'on fait pour transmettre une information véritable alors qu'on n'est pas bien sûr de son caractère factuel?
Il n'y a pas sur ces sujets, au journal Le Monde, un directeur de la rédaction qui dicte une ligne éditoriale à une troupe de rédacteurs. Chaque rédacteur a son prisme, entre guillemets, a son vécu, qui fait qu'il hiérarchise différemment les informations qu'il recueille. Et sur ce type de sujet où il y a parfois des zones grises, les certitudes ne sont pas toujours évidentes. C'est si je prends un sujet polémique récents, qui sont les PFAS. Les PFAS, il y a des entreprises qui ont produit des études pour démontrer l'innocuité de ces substances. Il y a des scientifiques qui ont produit des études pour démontrer que c'était des polluants éternels qui avaient des conséquences à très très long terme sur le vivant. Elle est où la vérité? Est-ce qu'il faut dire que l'un a raison, que l'autre a tort? Ce qu'il faut, c'est étudier ces études, voir qui parle, qui sont les chercheurs qui ont produit ces études. Et c'est vrai que souvent, dans ces domaines qui sont proches de l'industrie, il s'est avéré qu'il y avait des conflits d'intérêts, ou entre guillemets, il y avait des recherches qui étaient financées plus ou moins indirectement par des intérêts commerciaux, etc. On est obligé d'alerter le lecteur sur ces risques de conflits d'intérêts, au moins apparents. On ne peut pas faire des procès d'intention à l'égard de tout le monde, mais donc il faut être relativement prudent vis-à-vis de...
Sur cet exemple de PFAS qui est extrêmement intéressant, j'ai une question à vous poser. L'Académie des sciences vient de publier un rapport sur les PFAS, dont la conclusion est un peu ambiguë. La conclusion, c'est on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en particulier, la conclusion, c'est qu'il faut lancer des recherches sur tel ou tel aspect, etc., qui n'ont pas encore été faites. Et on entend un peu partout qu'un journal ne peut pas publier ce genre d'informations sous la forme « on ne sait pas », parce que le lecteur attend une réponse. Est-ce que vous avez un point de vue sur ça ?
Non, je pense qu'un journal peut très bien assumer le « on ne sait pas ». On ne sait pas. Le fait de dire « on ne sait pas », c'est savoir quelque chose, déjà. Donc c'est une information importante. Le « on ne sait pas », il faut savoir où se situe le « on ne sait pas ». C'est-à-dire qu'il y a des polluants, pour rester sur ce terrain, des polluants industriels, il y a de sinistre mémoire des polluants qu'on a conservés dans le bâtiment pendant des décennies, sous prétexte qu'on ne savait pas. Est-ce que c'est parce que le risque n'est pas avéré qu'il n'y a pas de risque ?
Grave question.
Alors c'est vrai qu'il y a ce principe de précaution qui est un principe éminemment délicat à manier, qui peut être très dangereux à manier, mais qui existe quand même, qui est un vrai principe auquel il faut prêter attention. Le « on ne sait pas » doit-il faire pencher la balance d'un côté, dire « on continue puisqu'on ne sait pas, c'est que c'est pas dangereux » ou de l'autre, on dit « ah bon, puisqu'on ne sait pas, il faut tout arrêter parce que c'est peut-être dangereux ». Ça, c'est pas aux journalistes de le décider.
Il y a cette question qui est un peu délicate, de savoir si un journal a le devoir d'expliciter les fake news. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous pensez que c'est une mission d'un journal de détailler ce qui est faux ? Parce que là, on ne parle plus de vérité, on passe de fausseté. Est-ce que ça fait partie de votre métier de prendre des affirmations de Trump ou d'un autre, de dire ça ? Non, c'est faux.
C'est très compliqué. Si c'est une parole officielle, effectivement, d'un chef d'État, d'un ministre, d'un responsable d'un bureau scientifique, d'un responsable d'entreprise qui affirme quelque chose, oui, le devoir du journaliste est de dire non, ça c'est faux. Si c'est une fake news qui circule sur les réseaux sociaux ou qui est avancée par un journal concurrent, nous ne sommes pas des redresseurs de tort. Nous sommes qui pour faire ça ? Nous le faisons de temps en temps dans un but pédagogique, entre guillemets, pour démonter auprès des lecteurs le mécanisme de diffusion d'une fake news. Mais répondre ou essayer de démonter ces fake news, c'est aussi prendre le risque de redonner une seconde chance
oui.
à cette fausse information, puisque du coup,
ça la diffuse encore plus.
Ça la diffuse encore plus. Donc c'est pas toujours intelligent. Notre règle, entre guillemets, est, en général, en principe, de ne pas répondre à ce type de fake news. Mais de temps en temps, on a un service qui s'appelle les décodeurs, qui prend une fake news qui a pris une importance particulière et qui la démonte de A jusqu'à Z dans un but un peu de pédagogie pour expliquer au lecteur comment on se fait prendre au piège.
Pour résumer, votre métier est un peu subtil.
Est un peu subtil comme de très nombreux métiers. C'est-à-dire que, pour reprendre le terme de vérité, vérité journalisme, je ne sais pas, il y a beaucoup de subjectivité, ce qu'il faut c'est de la rigueur, de l'honnêteté. L'information n'est pas un service public. On n'est pas un service public de l'État, mais il y a quand même un rôle d'intérêt public dans le fonctionnement d'une démocratie, d'une information libre, pluraliste, qui est reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme, et ça c'est important. Mais la vérité, c'est pas comme en religion. La vérité en religion n'a pas besoin d'être prouvée pour être vérité. Dans la science, en revanche, la vérité, on demande de la démontrer. Dans le journalisme, la vérité, parfois, elle repose sur des faits, mais parfois elle repose sur des témoignages. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus fragile, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus délicat à manier.
Il y a une question que je pose à tous mes interviewés. Est-ce que vous aimez la musique ?
Je suis un ignare en musique.
Ah, très bien !
Je suis un ignare en musique. J'aime beaucoup écouter les musiques, mais je ne suis incapable de retenir le nom de tel ou tel morceau que j'ai entendu à la radio le matin ou sur lequel j'ai dansé des dizaines de fois.
C'est super comme réponse parce qu'elle est rare. Alors, comme Jean-Baptiste est ignare en musique, je lui ai mis une musique qu'il ne peut pas ignorer, c'est le générique de la BBC.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.